On apprend ce matin dans le Journal de Québec que moins d'un an après avoir mis sur pause, vous vous souvenez, là, le fiasco de sa clique? En avril dernier, on avait dit wow, on va prendre un petit break. Et la Société d'assurance automobile du Québec décide de mettre sur pause le projet de reconnaissance faciale. Ce matin, on apprend qu'on relance le projet.
Exactement. On veut relancer le projet pour le mettre en place. Le ministère de la cybersécurité du numérique dit que c'est faisable et également que c'est sécuritaire. Mais est-ce que ça l'est vraiment?
Ça a l'air cool. Ça a l'air de la science-fiction. Ça a l'air du futur, mesdames et messieurs. Mais c'est une bonne idée. On va en parler avec l'expert en cybersécurité, Steve Waterhouse, qui est au bout du fil. Bon matin, Steve.
Bon matin à vous autres.
Merci d'être là avec nous ce matin. Très apprécié. T'en penses quoi? C'est-tu une bonne idée de relancer aujourd'hui ce projet-là de reconnaissance faciale à la SAC?
Ben, je vous dirais qu'il y a quand même beaucoup d'informations à faire le ménage avec, faire le traitement. Puis dans un contexte où il y a davantage de fraude, davantage de faux qui se dessinent à l'horizon, c'est peut-être pas une méchante idée, mais il y a toujours bien des éléments de base à travailler en amont de son application, en amont de commettre un tel système, si ce n'est que de définir correctement ce que c'est, puis en même temps tenir des séances publiques pour être en mesure d'expliquer aux gens qu'est-ce que ça va donner puis qu'est-ce que ça va faire.
Ben d'ailleurs, Steve, si je te comprends bien, ça pourrait avoir bien des points positifs, c'est le fun, mais il faut avoir confiance quand même à ceux et celles derrière le projet. On a vu ce qui s'est passé avec sa clique. Est-ce qu'on peut avoir confiance que ça va être bien fait puis que ça ne sera pas un danger pour nos informations privées, mettons?
Ben écoute, ça peut pas aller plus bas que ça, dans le sens que, à moins qu'ils rouvrent les ventes et laissent tout le monde faire n'importe quoi avec, ça me surprendrait énormément, mais cependant, les leçons étaient apprises et les projets, s'ils l'ont mis en arrêt, c'est pour revoir la planification, revoir la façon de faire, puis après ça, ben ils vont mettre ça en fonction. Mais cependant, ce qui me chatouille le plus, c'est qu'on n'a toujours pas eu, à la suite de la recommandation de la Commission d'accès à l'information en novembre 2021, de faire des représentations publiques puis expliquer au monde ça va servir à quoi, ça va faire quoi. J'insiste là-dessus parce que dans tous les déploiements, les projets qui ont été considérés au Canada, tant qu'aux États-Unis, dans les dernières 4 ans, bien, c'est toujours la première étape, c'est de faire une présentation. Ça va être quoi la portée, ça va être quoi la collecte d'informations et ça va être la rétention, autrement dit, ça va être quoi, là, c'est quoi son usage. Parce que c'est pas un buffet à ciel ouvert, ça, là, de photos puis d'informations. Il faut que ça soit encadré. Puis ça, tous les commissaires à la vie privée au Canada se sont mis d'accord là-dessus en mai 2022 pour dire qu'il faut qu'il y ait des balises claires dans l'utilisation de ces tels outils.
Et Steve, est-ce qu'on explique pourquoi on ne veut pas faire de débat public au niveau du ministère cybersécurité et numérique?
Ben, aucune idée de ce côté-là, ni non plus du ministère des Transports, parce que quand la lettre de la Commission d'accès à l'information est sortie, je veux dire, j'ai pas rien vu retrouver qu'il y en avait eu, premièrement, des consultations populaires, ni non plus, il y avait une intention, un plan d'en avoir dans les prochains mois. Fait que si au cours de la dernière année, ils ont fait des plans pour ça, OK, ils ont fait des plans, mais ils l'ont pas communiqué, là, ce que j'ai pu déterminer.
Hey Steve, est-ce qu'on doit se méfier de cette nouvelle technologie ou de cette technologie qu'on va utiliser de plus en plus, qui est la reconnaissance faciale? Si c'est bien fait, est-ce que c'est fait en toute sécurité? Est-ce que la population générale devrait se méfier de cette technologie?
Bien, encore là, faut s'assurer que ça ne tombe pas dans le dérap. Okay. Puis, il m'a donné un exemple. Quand est arrivé les incidents de la Coupe Stanley en Colombie-Britannique, là, il y a quelques années, là, si mon souvenir est bon, en 2011, ben il y a une compagnie d'assurance qui en avait une grosse base de données de reconnaissance faciale. Ils ont dit « Hey, police, on va vous aider. Voici notre base de données avec les gars. Vous allez peut-être pouvoir repérer du monde. » Ça, c'est le genre de dérape qu'il faut éviter parce qu'à ce moment-là, les gens font confiance à l'outil envers une organisation bien spécifique pour des raisons bien spécifiques. Puis là, si à tout bout de champ, ils sont capables à ce moment-là de servir de base un système puis dire « Hey, en passant, venez vous servir puis nous allons pouvoir vous aider. » Maintenant, pendant ce temps-là, le consentement qui a été donné par le citoyen, ben c'était juste pour une application très spécifique, puis là, d'un coup, ils se reviennent d'abord, ils font d'autres choses. C'est là que ça ne marchera pas. Fait que c'est de cette raison-là, faut qu'il y ait cet encadrement, puis en même temps qu'il y ait des recours possibles, c'est qui le responsable? Jamais ils se reviennent d'abord, puis ils donnent l'accès. Ça ne marche pas, ça. Là. Fait que c'est ça qui est le danger avec des données électroniques, encore là, biométriques, parce que la vie privée, si on y tient, bien, il faut qu'on mette ces encadrements-là. Si personne ne s'en préoccupe, tout le monde s'en fout éperdument de la vie privée, bien, on va y laisser faire. Puis tout le monde, à ce moment-là, va se faire afficher puis ils vont se faire regarder tout partout.
Steve, pour le commun des mortels, dont moi, quelle est la différence, justement? Quel est le niveau de risque différent entre je mets mon numéro d'assurance sociale pour mon rapport d'impôt, puis je vais avoir mon visage dans une banque de données?
Bien, les deux peuvent apporter des conséquences graves, dans le sens que ton numéro d'assurance sociale, c'est ton identifiant dans le secteur financier, dans n'importe quoi. Fait que oui, ultimement, c'est envers les rapports d'impôt, mais dans toute institution financière, pour faire une corrélation entre la personne puis le monde financier, c'est ce numéro-là qui est utilisé. Alors que la reconnaissance faciale peut être utilisée à toutes sortes de fins. Principalement, c'est l'authentification et l'identification des gens. Et il est pas impossible qu'il y ait aussi un taux d'erreur qui peut être à ce moment-là une mauvaise association dans un contexte. Fait qu'un exemple, il y a quelqu'un qui dit « Oui, je l'ai vu, cette personne-là, je sais que c'est lui. » Puis que la représentation, la détermination plutôt de la personne, ça tombe dans le taux d'erreur. Bien là, après ça, il y a un autre débat qui s'ensuit. Mais ça va dans le même sens aussi que lorsqu'il y a des fausses cartes d'identité, puis on l'a vu il y a 3 ans avec les faux passeports vaccinales, que là, à ce moment-là, c'est un genre de système qui va aider à prévenir cette fraude-là, puis ceux et celles qui font faire des cartes de toutes sortes d'affaires, parce qu'il y en a des histoires qui traînent sur le fait que la personne avait son permis de conduire suspendu, s'est promené d'aller à un autre bureau de la SAAC, puis ils ont donné, pareil, son permis alors qu'il était suspendu, et la personne a juste donné un faux nom, etc. Fait que c'est dans ce but-là, moi, je crois que ça a son usage, mais faut pas que ça déborde.
C'est pas un peu ironique de voir la population en général craindre que le gouvernement s'immisce comme ça dans, entre guillemets, la vie privée avec des photos, alors que tout le monde met des photos de sa face sur Facebook puis dans des applications pour te faire vieillir ou pour te donner une face drôle?
Ben oui, mais là-dessus, faut regarder les petits caractères. Qu'est-ce que les compagnies font avec ces services gratuits auxquels les gens soumettent justement des photos et de l'information personnelle? Là, les gens le font sciemment. Puis dans le fond, je me devrais rajouter, le font inconsciemment. Alors, là, après ça, on l'a vu dans des... on se rappelle le Clearview AI, qui est une compagnie américaine qui, eux, là, tout bonnement, ils ont tout simplement été chercher tout ce qui est images qui traînent dans l'espace public de l'Internet pour se constituer une base de données, puis la revendre, puis autrement dit, la mettre à contribution à des organismes publics comme privés pour être en mesure de faire des comparaisons d'images et voir, et, ah, ben oui, on connaît cette personne-là, etc. Mais plus les gens, c'est pour ça que je disais tantôt mon commentaire, quand on s'intéresse à notre vie privée, qu'elle reste privée, ben on minimise justement la diffusion d'informations aux 80. Sinon, ça veut dire quoi? Ben ça veut dire que des espaces publics, comme on entend parler, qui est l'Internet, ben va devenir à ce moment-là un terreau fertile pour ramasser toute cette information-là et la revendre. Et ça se fait actuellement, comme on se parle. Fait que les gens, il faut que, premièrement, qu'il y ait une prise de conscience. Ça veut dire quoi, la vie privée? Ça comporte quoi? Puis, dans un contexte aussi, ce qu'on a de l'intelligence artificielle de plus en plus utilisée à toutes sortes de fins, ben notre image qui a été mise publiquement, ben elle pourrait être utilisée à d'autres fins, puis que c'est là que la personne va devoir expliquer que c'est vraiment pas elle.
Puis, Steve, en terminant, est-ce que il faut s'y faire? Est-ce qu'il faut apprendre à vivre avec cette nouvelle technologie-là? Parce que la reconnaissance faciale, on va en voir utilisée de plus en plus au cours des prochaines années?
Oui, puis on en a eu un exemple à Québec avec la place Laurier, quand il y avait deux essais avec les caméras de reconnaissance des gens, donc d'identification des gens qui rentraient. C'était pas pour identifier une personne de son nom, mais c'était pour faire une documentation donc sociétale, tenir des statistiques, qui vient dans le centre d'achat, à quelle heure, quel genre de personne, des enfants, des adultes, etc. Puis il y en a un qui s'est fait pogner, donc les Cadillac Fairview, puis ils sont fait taper ses doigts dans le sens qu'ils documentaient sans le consentement. Fait que les gens, il faut qu'ils aient le choix de dire oui, ça me dérange pas que quelqu'un le filme, ou non, j'y vais pas parce que je veux pas être documenté de cette façon-là. Mais effectivement, il y en a de plus en plus partout de ces caméras de reconnaissance faciale, puis on ne saura pas. Dans l'espace public, c'est ça qui est fou. On parle d'une caméra là, qui était vraiment à des dizaines de mètres autour de nous, on la verra pas, puis elle va nous documenter. Fait que c'est là que faut qu'on, comme société, qu'on laisse savoir nos élus, là, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Puis si on n'est pas d'accord, bien, qu'on amène des arguments, puis qu'on se présente aux assemblées, puis qu'on dise qu'on n'a pas, on n'en veut pas de ces affaires-là. Mais dans un monde électronifié comme on est aujourd'hui, on est un peu tard.
Steve Waterhouse est expert en cybersécurité. Steve, c'est toujours un plaisir. Merci pour ton temps. Puis on a la preuve que tu es un lève-tôt ce matin. Tu as répondu à notre appel à 5h30.
Toujours un plaisir, les gars. Bonne fin de journée.
Salut, merci, Steve.
Salut.
Toujours très intéressant de jaser avec Steve Waterhouse.
Oui, puis dans le fond, là, tout ce qui manque à la SAAC pour amorcer le projet, c'est un débat public.
Oui.
Comme c'était demandé par la commissaire en 2021. C'est ce qui manque pour que les gens soient bien renseignés. Puis après ça, bien évidemment, bien protéger les renseignements. Puis malheureusement, avec les déboires de SAACLIC l'année dernière,
Ben là, c'est là que les gens ne sont pas rassurés.
Ah, bien là, le doute est là. Ben le, oui, doute est bien planté, c'est sûr et certain. Après la pause, restez là. Deuxième heure de Rage Against le matin. La nouvelle popularité du Parti québécois, c'est-tu une motivation? C'est-tu une pression pour le parti? On va en jaser avec le chef Paul Saint-Pierre Plamondon. Évidemment, on suit aussi ce qui se passe du côté de Baltimore avec le pont qui est tombé cette nuit. Un bateau cargo qui est rentré dans la structure. Si vous n'avez pas vu les images, allez faire un petit tour sur la page Facebook de Boulevard 102. Ridge.